Matthieu, chapitre 6, versets 31 et 34. Ne soyez donc point en souci, disant, « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ?» Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. J'aimerais aujourd'hui vous partager un message dont j'ai besoin. J'aurais pu partager mille et une choses, mais j'ai préféré partager un message que j'ai besoin d'entendre et que j'ai besoin de méditer. Et donc, je vous invite à ma méditation. Et je pense que je suis certain, je suis convaincu qu'elle profitera à chacun d'entre nous, si tant est que nous ouvrons nos cœurs aux avances de l'amour de Dieu, comme nous allons le découvrir ici dans cette étude à laquelle je nous invite. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, je vais y introduire notre méditation par ces pensées-là auxquelles je vous demande d'être attentif. Est-ce que vous avez remarqué, ou disons-le comme cela, avez-vous vous-même fait l'expérience que nous sommes naturellement, nous en tant que pécheurs, des êtres suffisants et indépendants? Avez-vous remarqué cela? Que par notre nature pécheresse, séparée de Dieu, déchue, nous avons cette tendance à nous suffire à nous-mêmes, à vouloir ne dépendre de rien d'autre que nous, à être indépendants. Donc, de ne pas dépendre. Indépendants. C'est quelque chose, c'est un concept très en vogue aujourd'hui, d'être indépendant. Tout le monde veut être indépendant, n'est-ce pas? La femme, d'une manière très particulière, aujourd'hui veut être indépendante. Elle veut pouvoir faire tout ce que l'homme fait. Mais que ce soit homme ou femme, nous avons tous cette nature, cette disposition qui est née de la désobéissance, de vouloir être indépendant. Nous avons naturellement l'impulsion de vouloir régler nos problèmes, de vouloir s'assurer de l'accomplissement de nos projets, si ce n'est par nos actes, au moins par nos pensées. Avez-vous remarqué cela? Que de par notre nature de pécheurs, nous avons cette impulsion de vouloir régler nos propres problèmes, de vouloir s'assurer de l'accomplissement de nos desseins, de nos projets. Et si on ne le fait pas par nos actes, tout du moins, nous avons cette impulsion de vouloir le faire par nos pensées. Donc nous sommes suffisants, indépendants et nous voulons régler nos problèmes et nous le faisons, ou plutôt nous manifestons ce désir souvent par nos pensées. Avez-vous ce problème? Ici j'attire votre attention vers un exemple typique. L'homme qui est sans Dieu. Qui n'a pas la foi en lui, en Dieu. Cet homme-là, il n'a que lui-même pour accomplir ses propres projets et pour mener à bien ses ambitions, n'est-ce pas? Puisqu'il n'a pas Dieu. Puisqu'il ne professe, il n'a aucune profession dans le Dieu vivant. Et en Jésus-Christ. Eh bien, il n'a que lui-même pour accomplir ses propres projets, puisqu'il ne s'en remet pas à Dieu, puisque Dieu n'est pas dans son équation de vie. Il n'a que lui-même pour mener à bien ses ambitions, ses plans. Et donc, il compte sur lui-même. Il accomplit cette disposition pécheresse que nous avons d'être suffisant et indépendant de Dieu, puisqu'il ne fait aucune profession en Dieu, profession de foi en Dieu. Il fonctionne de cette manière. Il est le centre de capacité dans son existence, il n'y a que lui. L'homme qui est sans Dieu. Et vous me direz, mais il y a aussi des hommes sans Dieu qui comptent sur d'autres personnes. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais ils ne comptent pas sur Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, nous avons cette disposition à être indépendant, si ce n'est des êtres humains, au moins d'être indépendant de Dieu. Vous comprenez? Et donc, reprenons cette illustration typique. Cet homme qui est sans Dieu, vous allez voir où est-ce que je veux en venir ici. Cet homme qui est sans Dieu, sans une foi vivante en lui. Cet homme-là, il est le gérant de toute son existence. En mettant de côté l'homme qui vit de Pôle emploi et qui n'a aucun projet autre que de poursuivre cette ligne de mire dans toute sa vie sur la Terre. Hein. En mettant de côté ce point-là, parce que ce n'est pas une exception, c'est simplement une autre manière d'exprimer cette disposition intérieure. Donc cet homme-là dont nous parlons, qui est sans Dieu, il est le gérant de sa propre existence. Et il porte sur ses propres épaules tout le poids du fardeau de ses désirs et de ses entreprises. Il est le gérant. Il est la source de tous les accomplissements de ses projets. Il compte sur lui-même. Il n'y a que lui dans l'affaire. C'est sur ses propres épaules que repose tout le poids de la responsabilité de mener à bien ses ambitions. Cet homme-là, que fera-t-il? Cet homme-là est stressé. Cet homme-là a besoin de maintenir son taux d'adrénaline très haut parce qu'il faut qu'il accomplisse tous ses projets et il ne compte sur rien d'autre que sur lui-même. Il est indépendant. Il est la grande figure du monde aujourd'hui. Il est un self-made man, comme on dit. Un homme qui s'est fait lui-même, il s'est accompli. Il est suffisant, il se suffit à lui-même, il a tout fait. C'est l'homme type, pécheur, non régénéré par la grâce. Eh bien, nous aussi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous qui nous réclamons du nom de Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes en danger de vivre comme cela. Comment? C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout, c'est sur moi que repose la responsabilité de l'accomplissement de tous mes projets. C'est moi. Et peut-être que dans nos actes, nous ne manifestons pas cette disposition, mais peut-être que dans nos pensées, nous sommes cet homme-là qui est le gérant de toute son existence. Hein? Avez-vous ce problème? Peut-être que nous avons ce problème, nous sommes en danger, nous aussi, de vivre comme cela. D'être en souci comme cela. En souci. Cette personne a besoin de beaucoup de café. Il est le gérant. Il faut qu'il se maintienne en vie. Il ne compte que sur lui-même. Nous aussi, nous sommes en danger d'être en souci comme cela. Hein, cela ne se voit peut-être pas sur vos actions. Peut-être vous êtes un sépulcre blanchi. C'est merveilleux. À l'extérieur, on n'y voit que du feu. Mais peut-être qu'à l'intérieur, vous êtes, je suis, le gérant de ma propre existence. Nous aussi, nous sommes en danger de marcher sans foi, sans force et sans soutien. Sans soutien, mis à part notre énergie charnelle et notre adrénaline limitée. Hein? Parce que c'est le cas de cet homme-là qui est sans Dieu. Son soutien, c'est lui-même. Son soutien, c'est sa famille. Son soutien, ce sont ses enfants. Son soutien, ce sont ses amis. Son soutien, c'est son verre d'alcool. Son soutien, c'est sa drogue. Son soutien, c'est son projet. Son projet est son soutien et il envisage d'accomplir son projet parce qu'il est le gérant de toute son existence. C'est l'homme qui est sans Dieu, qui n'a pas de foi en Jésus. Est-ce que je suis aussi cet homme-là? Es-tu, mon frère, cet homme-là? Es-tu ma sœur, cette femme-là? La gérante de ta propre existence. Est-ce que nous marchons nous aussi sans foi, sans force et sans soutien? Parce que nous essayons, tant bien que mal, si ce n'est par nos actes, au moins par nos pensées, d'accomplir nos projets. J'aimerais que l'on se tourne maintenant vers notre lecture biblique, ou du moins le cercle proche de notre lecture biblique. Et contempler, méditer au sujet du lendemain et de notre activité mentale. Quelle est mon activité mentale? Mes pensées vis-à-vis du lendemain. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, nous reprenons ici les paroles de Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 25, où il dit « Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? » Verset 27. « Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille ?» Hein ? Avez-vous déjà contemplé ce sujet-là? Il se peut que vous soyez adventiste depuis des années, chrétien depuis des années, ou quand bien même vous n'ayez pas été chrétien, cette pensée de la parole de Dieu vous a collé depuis des années. Vous la connaissez. Sur le bout de la langue, vous la connaissez, mais peut-être que je ne l'ai pas pratiquée comme je le devais. Que dit-il? Que dit le Seigneur? Jésus. Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Est-ce que je peux me rendre plus grand d'un centimètre par la multitude de mes inquiétudes? Pourquoi sont-elles là? À quoi me servent-elles si elles ne peuvent même pas m'ajouter une coudée? Un millimètre? Même pas un millimètre? Toutes ces inquiétudes ne m'ont jamais ajouté ne serait-ce qu'un millimètre à ma taille. Quelle est leur utilité? Vous avez beau y penser pendant des heures durant, jour après jour après jour, cela n'y changera rien. Quoi? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Jésus disait, qui de vous peut devenir plus grand, ne serait-ce que d'un centimètre, par tous vos soucis dans votre tête? Qui? Levez la main. Qui peut? Et tout le monde le regarde et dit, mais en fait, je peux pas grandir avec ça, ça c'est pas trop utile en fait. Pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a rien gagné. Cela n'y changera rien. Ça n'y changera rien. Mais nous avons besoin de plus que ça, de beaucoup plus que ça, pour nous défaire d'une disposition naturelle, d'une disposition si naturelle à l'homme, à la nature pécheresse. Nous avons besoin de plus que cela. Parce que même cette évidence frappante ne suffira pas à toucher nos cœurs endurcis. Parce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Peut-être nous n'avons pas réalisé l'ampleur de l'absurdité de nos mauvaises habitudes. Mais même si les meilleures preuves nous étaient présentées, il nous manquerait un ingrédient indispensable. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, j'aimerais que l'on puisse toucher ici aujourd'hui et réaliser. Donc nous avons beau penser, si nous avons des problèmes, frères et sœurs, je me prêche ici à moi-même aussi. Je dois vous l'admettre. Si nous avons des problèmes, des inquiétudes, des angoisses, eh bien, nous avons beau y penser pendant des heures durant, littéralement, je ne fais pas d'exagération ici. Nous avons beau y penser pendant des heures durant, écoutez-moi, frères et sœurs, jour après jour, le même scénario, eh bien, cela n'y changera rien, zéro. Rien du tout n'aura changé par toutes ces inquiétudes qui m'auront gâché ma vie et qui auront sapé mon existence, mon énergie spirituelle, qui m'auront privé de tant de jours bénis à marcher avec le Seigneur Jésus. Et donc, ne serait-ce que cela, ça devrait nous encourager à penser à toutes ces heures perdues que nous aurions pu consacrer à la prière, consacrer à Dieu en lui offrant le sacrifice de nos cœurs. Nous allons le voir aujourd'hui. C'est juste une brève introduction rapide comme cela de ce qui me vient à l'esprit quand j'y pense, Mais nous allons le trouver dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir une assise ferme et scripturale pour les jours prochains. Hein, parce que cela a pour but d'enclencher, de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Dans Matthieu, maintenant, nous continuons. Matthieu, chapitre 6, verset 31. Hein, vous connaissez, nous passons le verset 26 et 28. Vis-à-vis des oiseaux qui ne sèment pas, mais ils ne moissonnent, mais le Père Céleste prend soin d'eux. Vous connaissez aussi les lys des champs que Jésus nous donne comme une illustration de la manière dont Dieu prend soin des plus petites choses et qui est une assurance pour nous, qu'il prendra aussi soin de ses plus grandes choses, de sa création, de l'homme qu'il a créé à son image. Et nous passons cela et nous venons au verset 31. Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce qui va me vêtir? Comment je vais? Quoi? À quel moment? Dans quelles circonstances? Avec quel argent? Ça n'en finit plus. Il se peut que votre problème, il ne soit pas énuméré ici. Ne vous en inquiétez pas. Ne vous en inquiétez pas. Il se peut que les choses qui nous inquiètent ne nous soient pas assurées. Mais que cela ne nous décourage pas d'épouser les principes vivants que Jésus ici nous présente. Que cela ne nous décourage pas. Si notre problème n'est pas sur le manger ou le boire ou le vêtement, écoutons tout de même ce que le Seigneur veut nous dire. Et la lumière brillera dans notre esprit. Un peu comme cela. Ne soyez donc point en souci disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, verset 32. Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez, écoutons le principe, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain. Car le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Depuis combien d'années ce verset me suit comme une ombre? Je pense que depuis que j'ai accepté le Seigneur et que ces choses sont venues à mon attention, ça n'a pas cessé d'être derrière moi. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. C'est très intéressant ici parce que le vocabulaire, le langage ici de Jésus, c'est de parler du lendemain comme d'une personne. Le lendemain, il n'existe pas, il n'est pas né encore. Et quand le lendemain sera né, il s'occupera de lui-même. Et quand j'y ai souvent réfléchi, j'ai réalisé en fait, c'est que ce sera Dieu qui s'occupera du lendemain. Et le lendemain sera gardé par Dieu. Il sera protégé par Dieu. Dieu fera des provisions, pourvoira pour le lendemain. Mais le lendemain, il n'existe pas encore. À part, dans la pensée du Tout-Puissant. De qui? De l'Éternel. Lui, il est éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Je peux avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, mais je ne suis pas omniscient. Lui est omniscient. Moi, je ne sais pas. Je ne connais le passé que tel qu'il est marqué dans la parole de Dieu et dans les livres d'histoire. Et je ne connais le futur que tel qu'il nous est annoncé dans la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Je ne sais rien d'autre. Pour moi, mis à part ce que Dieu m'a dit sur le lendemain, eh bien le lendemain n'existe pas. Cela ne veut pas dire que nous serons irresponsables vis-à-vis de notre devoir d'obtenir une préparation complète pour le retour de Jésus, qui est futur. Ça ne veut pas dire que nous vivrons de manière irresponsable vis-à-vis de cette espérance et de ce retour imminent de Jésus-Christ. Mais cela veut dire que je n'essaierai pas de gérer les problèmes de demain aujourd'hui, comme nous allons le voir. Donc, il n'y a pas de mal à faire des préparations pour anticiper la pauvreté ou la disette, tant qu'on le peut. D'économiser, si on le peut. Il n'y a pas de mal à cela, d'anticiper le lendemain, non pas de manière anxieuse, mais d'une manière prudente. Si c'est une prudence qui est dirigée par la sagesse, il n'y a aucun mal en cela et Dieu encourage cela. Tant que nous ne cherchons pas à accumuler des richesses ici-bas, mais simplement à pourvoir à des besoins futurs qui sont une évidence. Par exemple, si je gagne plus à un certain moment et que je sais que je gagnerai moins à un autre moment, eh bien, il convient de faire des économies. Mais toutefois, on ne devrait pas s'inquiéter en nous-mêmes d'un problème qui n'existe même pas encore et dont on ne peut même pas être sûr qu'il existera plus tard. Car, comme Jésus l'a dit, le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. Lendemain, Dieu pourvoira aux problèmes qui se présenteront. Mais nous n'avons pas aujourd'hui à nous soucier du lendemain. Comme nous allons le voir ensuite, dans une déclaration que j'ai prévue pour plus tard. Et comme la parole dit, à chaque jour suffit sa peine, la peine d'aujourd'hui, elle nous suffit largement et nous n'avons pas besoin d'y ajouter la peine supposée de demain, d'après-demain, du mois prochain, de l'année prochaine et de l'année d'après, etc., etc. Nous n'avons pas besoin d'ajouter à la peine d'aujourd'hui, la peine supposée de demain, la peine imaginaire du mois prochain, la peine imaginaire de l'année d'après. Dieu ne nous demande pas cela. Il nous dit « à chaque jour suffit sa peine ». Il y en a largement assez. Pourquoi tu veux en prendre d'autres plus tard? Oui, c'est ce que le Seigneur a dû m'apprendre à travers de nombreuses errances. À chaque jour suffit sa peine. Un jour, ça suffit largement, largement. Et dans ce jour-là, si je me concentre sur la peine de ce jour-là, comme nous allons le voir, sans y ajouter la peine imaginaire ou envisagée de demain et d'après-demain, etc., eh bien nous réaliserons que nous pouvons tout à fait obtenir la victoire aujourd'hui. Mais cette activité mentale d'essayer de gérer les problèmes de demain aujourd'hui dans nos pensées, eh bien, c'est la recette idéale pour notre découragement complet. La recette idéale d'accumuler tous les problèmes que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Nous serons inévitablement découragés, affaiblis, accablés, détournés de ce qui aurait dû et qui devrait être notre concentration principale, c'est de communier avec Dieu. Et donc, nous avons vu que on ne devrait pas essayer de régler par nos inquiétudes les problèmes de demain et du futur. Mais que devrions-nous donc faire de toutes ces inquiétudes qui souvent nous narguent, qui souvent nous tirent comme un enfant par le pantalon? Que devrions-nous donc faire de toutes ces anxiétés-là, de toutes ces inquiétudes que nous sommes tentés de nourrir? Parce qu'il s'agit d'un problème de la tentation. Mais j'ai choisi d'examiner ce sujet-là vu de l'angle de notre propre disposition. Parce que quand bien même il est vrai que le diable nous tente à cela, eh bien, il est aussi vrai que cela fait partie de notre disposition naturelle. Et donc, c'est important que nous arrivions à gérer ce problème en comprenant qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, répond si aisément aux tentations du diable. Donc, Jésus a dit, pour répondre, ne soyez point en souci pour votre vie. Ou, comme c'est écrit au verset 34, ne soyez donc point en souci pour le lendemain. Donc on ne doit pas être en souci. Mais comment? Comment est-ce que je peux ne pas m'en soucier? Il faut avoir l'instruction équilibrée et complète, harmonieuse de la parole de Dieu pour pouvoir nous faire une idée juste de la pensée de Jésus ici, de ce qu'il cherche à communiquer. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas en souci. Ne vous inquiétez de rien. Mais quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. quel est l'élément ici clé par lequel nous pouvons ne pas nous mettre en souci pour notre vie ou pour le lendemain et pour notre vie dans le lendemain. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, quelle que soit l'occasion, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quelle que soit l'inquiétude, quel que soit le souci, quel que soit le projet, quel que soit le plan, quel que soit le désir, quelle que soit l'ambition, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parlez-en à Jésus. Il faut que j'en parle à Jésus. Plutôt que d'en parler à l'intérieur de moi-même, il faut que j'expose quoi ? J'expose mes demandes devant Dieu. Est-ce que vous voyez la distinction ici ? D'un côté, vous allez vous mettre en souci, vous allez être en souci pour votre vie et pour le lendemain. C'est un souci, ce n'est pas productif de bien. Ça ne nous apportera rien, même pas une coudée à notre taille. Ça ne fera que produire en moi une plus grande disposition à le faire la prochaine fois que je serai anxieux ou que je ressentirai un souci vis-à-vis d'un problème qui se présentera peut-être plus tard. Pour le lendemain. Ça, c'est un souci. Ce n'est pas productif. C'est stérile. C'est dangereux. Cela occupe nos pensées et cela détourne notre esprit de ce qui devrait occuper nos pensées ou je devrais dire de celui qui devrait occuper nos pensées et nos affections. Parce que si je suis en souci, eh bien mes affections sont taries, elles sont paralysées. Quel que soit le souci, peut-être au début cela vous est présenté dans la tentation comme une tentation de vous plaire à une ambition ou un désir, mais après cela va se transformer en souci. Vous pouvez être certain de cela. Au début, le diable, il vous tente d'une manière positive, et après, vous réalisez que ce n'est qu'une imagination, que ce n'est qu'un rêve, et là, vous êtes en souci. Parce que vos affections ont été attirées vers un objet. Mais quand la réalité de la parole de Dieu vous a frappé, eh bien, puisque vos affections étaient sur quelque chose qui n'existe pas, mais qui a été créé dans votre imagination par l'alchimiste Satan, eh bien, la connaissance biblique de la parole de Dieu vis-à-vis de ce que vous avez médité dans votre esprit va susciter un souci. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas réel et maintenant, vos affections ont été attachées à quelque chose dont vous n'êtes même pas sûr. Parce que c'était concentré sur quelque chose qui n'existe pas, qui était comme un mirage. Donc cela, c'est le souci. Cela nous assèche à l'intérieur, cela nous trouble, cela nous angoisse. Mais Dieu ici nous dit à travers l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, exposez vos demandes devant Dieu. Vous voyez la différence ? Au lieu que je m'en soucie, Dieu me dit, ne t'inquiète de rien, mais expose en toute occasion tes demandes devant Dieu. Donc si je suis en souci, je dis, Seigneur, je ne veux pas m'en inquiéter. Mais j'aimerais bien que ceci, cela. Et donc, selon la volonté de Dieu, nous prions. Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas ta volonté. Hein, nous prions et après, quand nous avons demandé à Dieu, par des prières et des supplications, nous nous adressons à lui avec des actions de grâce. Parce que quoi? Parce que nous réalisons, nous choisissons de réaliser et de consentir et d'accepter que Dieu, il fait le bien pour moi. Comme nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Hein? » Son dessein, c'est qu'il nous a prédestinés à devenir semblables à lui, tel que le Fils réfléchissait la gloire du Père. Nous sommes appelés à cela. Et toutes choses concourent à notre bien. Et donc, avec action de grâce, nous présentons à lui, non pas des inquiétudes, mais nous lui exprimons le fardeau de notre cœur. Je dis, Seigneur, ça m'inquiète cela, mais pourquoi je m'inquiète? Hein? Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a mon plus grand bien à cœur. Vous voyez? D'un côté, il y a le souci qui est une manifestation de cet homme qui est sans Dieu. C'est cela, c'est cette expression de l'homme charnel, le souci. Lorsque nous marchons de manière charnelle, nous sommes sans foi, sans force et sans soutien. Mais ici, lorsque nous consentons, que nous acceptons, que nous épousons ce conseil, eh bien, nous marchons, nous réfléchissons, nous présentons à Dieu nos demandes par la foi. Nous exerçons notre foi et cette foi anime en nous le souvenir de sa parole qui nous dit que Dieu est amour et que Dieu se soucie à soin de nous et que nous devrions lui confesser nos fautes et lui confesser nos anxiétés au lieu de les garder, au lieu de les nourrir, au lieu de les grandir, les remettre à lui. Ne vous inquiétez de rien, cela veut dire quoi? Ça veut dire, je m'en remets à lui. Il peut les porter, je ne peux pas les porter. Je ne suis pas cet homme sans Dieu, je veux être avec Dieu, je veux marcher avec le Seigneur Jésus. Et donc cet homme-là, je m'en dépouille, comme c'était marqué autre part, et je revais l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est un homme qui est un homme de foi. Hein? C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a une espérance dans cet homme qui marche par la foi, qui pense par la foi. Plutôt que cet homme qui est charnel, qui ne fait que se soucier des choses, qui ne fait qu'être noirci par l'obscurité de ses incertitudes et de ses inquiétudes et de ses soucis qui sont sans fin et qui ne changeront rien à la situation. Hein? En toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ce petit élément ici, 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 derniers mots ici sont vivants de signification parce que cela veut dire que quand je me présente devant Dieu, selon cet esprit-là, parce que c'est un esprit, c'est une mentalité, c'est une foi, eh bien, j'aurai à cœur, parce que le Saint-Esprit me rendra capable de cela, de remercier Dieu, non pas parce qu'il va faire tout ce que je veux, mais parce que je sais que Dieu est digne des actions de grâce les plus ferventes et digne de mes plus grandes affections. Il mérite cela, quelle que soit l'issue de ce qui me semblait être un problème. Lorsque je le remets à Dieu, lorsque je l'expose devant Dieu, hein? Ah, comment il s'appelait déjà? Je crois que c'était Ézéchias, le roi d'Israël, au temps de Sanchérib qui venait envahir Jérusalem et qui s'apprêtait à assiéger la ville de Jérusalem, eh bien, le roi d'Israël, qui était un homme pieux et qui était rendu anxieux par ces menaces du roi, je crois, d'Assyrie, il est venu à Dieu et il a présenté cette lettre, ces menaces de l'Assyrien, il a présenté à Dieu comme ça, il a dit, regarde les paroles qu'a dit cet homme-là. Contre toi, ses menaces contre ton peuple. Hein, qu'est-ce qu'il faisait? Il exposait ses demandes devant Dieu. Et c'est ce que nous devrions faire. Au lieu de nous inquiéter, de nous fermer dans cette activité mentale stérile, nous devrions ouvrir nos cœurs, Seigneur. Regarde comment ils font ça. Regarde mes inquiétudes. Regarde. Et là, nous pouvons le prier avec action de grâce. Parce que cet esprit-là, il nous ouvre aux ondées du Saint-Esprit. Les pluies du Saint-Esprit tombent sur l'âme qui a ouvert son cœur à être menée gauche ou droite, telle qu'est la volonté de Dieu. Quelle que soit ta volonté, Seigneur, cet esprit-là, il créera en nous la gratitude. Et donc, au lieu d'essayer de résoudre le problème en y réfléchissant dans ma tête, ce qui ne changera absolument rien, eh bien, je le présente à Dieu dans la prière. Et je n'attends pas la fin de la journée pour le faire. Je n'attends pas la fin de la journée pour régler ces problèmes avec Dieu. Dès que le diable me tente, je dis, Seigneur, regarde là. C'est toi. C'est toi. Je ne veux pas m'inquiéter de cela. L'avenir, il n'existe même pas. C'est toi qui le sais. Seigneur, le lendemain. Je le présente à Dieu, ce problème, dans la prière. J'en parle à Jésus. Je lui dis combien ces choses m'angoissent. Et je m'accroche à lui en lui confiant et en me déchargeant sur lui de mon fardeau de soucis et d'inquiétudes auxquels je ne peux rien changer. Comme c'est écrit dans le psaume 55, verset 23, je l'ai marqué, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. » Lui, il te soutiendra. Pas moi tout seul, je ne serai pas le gérant de ma propre existence. Dieu te soutiendra. Mais décharge-toi sur lui de ton fardeau d'abord. Que je me décharge sur lui de mon fardeau, que je ne le porte pas. Hein, vous avez cette image du pèlerin, un pèlerin chrétien, qui s'appelle d'ailleurs Christian, dans le livre... The Pilgrim's Progress par John Bunyan. Et il a un gros fardeau derrière lui. Hein? Et ce fardeau, il attend d'arriver à la croix pour le déposer. Eh bien nous, la croix nous est accessible. La croix, ce n'est pas un objet autour du cou. La croix, ce n'est pas un crucifix qu'on voit une fois par semaine. La croix, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu par la foi. Pas besoin de confessionnel, pas besoin de prêtre, pas besoin de messe. Je viens à Jésus en lui confiant mon fardeau de soucis et d'inquiétudes auxquels je ne peux rien changer. Je me décharge de mon fardeau sur l'Éternel, et il me soutiendra. Il me soutiendra. Je n'aurai pas à essayer de me soutenir par mes propres inquiétudes qui ne marcheront pas, qui ne porteront pas de fruits, qui me laisseront plus sèche et asséchée que jamais. Non, je me déchargerai sur Jésus de mon fardeau. Et lui, il le prendra sur lui. Parce que, comme c'est écrit dans Ésaïe 53, verset 4, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Et lorsque ces choses, donc, sont une douleur pour moi, je ne vais pas ressasser ces choses-là, mais je vais contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je vais contempler que pour que moi, je n'ai plus à porter ce fardeau-là, il faut que ce soit lui qui le porte. Et cela, ça attendrira mon cœur pour lui. Quoi? Parce qu'il m'offre la paix. Mais dans ce processus-là, il faut qu'il souffre ma douleur, mon péché, mon ingratitude. Et alors, quand nous aurons fait cela, alors, comme c'est marqué au verset 7, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'elle surpasse toute intelligence? Parce que je suis rendu capable, je suis à même de ne pas m'inquiéter du lendemain et de confier à Dieu les choses qui me tracassent. Je suis capable de vivre quoi? Au jour le jour. De vivre au jour le jour. De vivre ce jour-ci avec Dieu. Et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comment ça, en Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce que c'est la contemplation de lui qui rendra tout cela possible. Et comment je peux le contempler? En cessant de contempler le lendemain qui n'existe pas. Et pour lequel il n'a pas fait de provision, pour lequel il n'a pas pourvu, parce qu'il n'existe pas. Et donc, quand je ne me soucie plus du lendemain, et généralement vous verrez que ce genre de d'évolution, de transformation de notre mentalité, de nos réflexions, eh bien cela comporte aussi, vous allez voir que c'est très lié, cette réflexion-là, avec le plaisir et la convoitise, parce que toutes ces choses, généralement, elles sont propulsées dans l'avenir. Et donc, si je barre l'avenir, comme n'existant pas, comme étant une contemplation stérile, mis à part l'espérance du retour de Jésus. C'est autre chose. Si c'est une espérance, nous l'espérons avec la foi. Mais lorsque nous nous inquiétons du lendemain, quand nous faisons cela, nous marchons selon la chair. Et donc si je ne m'inquiète de rien, comme je suis appelé à le faire, eh bien vous verrez que cela aussi affaiblira nettement l'emprise d'autres tentations pour lesquels la contemplation du lendemain est un élément clé. Si vous retirez le lendemain, toutes ces choses sont coupées à la racine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. En toute occasion, présente, maintenant, je suis appelé à prier, à supplier, à remercier le Seigneur. Et quand je fais cela, la paix de Dieu, quand nous faisons cela, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que lui, comme c'est écrit, Jésus-Christ le même, aujourd'hui, hier et pour toujours. Je crois que c'est cela. Hein? Lui, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il est le commencement et la fin. Moi, je ne connais que le présent. Et donc, lorsque j'abandonne ma contemplation futile et stérile du lendemain et mes inquiétudes vis-à-vis du lendemain, eh bien, je réaliserai que je suis dans le présent avec mon Dieu. Parce que Dieu est présent dans le présent. L'avenir n'existe pas. Et puisque l'avenir n'existe pas, il n'y a que le diable là-dedans. Vous comprenez? Dans cette contemplation charnelle. Nous pouvons explorer le futur dans la parole de Dieu, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Parce qu'il cela requiert de la foi en la parole de Dieu pour croire ces choses-là. Mais lorsque nous contemplons de manière inquiète et anxieuse l'avenir, ça ne requiert pas de foi. Cela requiert simplement de réfléchir selon l'homme charnel qui est sans Dieu, qui est suffisant, qui est indépendant, qui est le gérant de sa propre existence. C'est cela qui fonctionne lorsque nous réfléchissons ainsi, que nous mettons en souci de cette manière sur le futur et les problèmes qui existeraient peut-être dans le lendemain. Vivre au jour le jour. C'est l'objectif maintenant de cette méditation qui nous a menés jusqu'ici. J'aimerais ici que l'on se tourne vers la déclaration de l'esprit de prophétie dans le livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel », le volume 2, à la page 487 et au paragraphe 5. On va laisser maintenant le Seigneur résumer notre méditation par le témoignage de Jésus et pour affermir les choses que nous avons contemplées aujourd'hui dans sa parole. Je lis. S'acquitter fidèlement de ses devoirs aujourd'hui, c'est la meilleure préparation aux épreuves de demain. Comment je peux me préparer pour ces choses au sujet desquelles j'ai été inquiet pendant si longtemps? Eh bien, en m'acquittant fidèlement de mes devoirs aujourd'hui. C'est la meilleure préparation possible aux épreuves de demain. Voilà. Ne soyez pas inquiets au sujet des difficultés qui vous attendent. Ce serait augmenter vos soucis présents. Ou comme c'est écrit littéralement, ne rassemblez pas tous les risques et toutes les inquiétudes de demain pour les rajouter au fardeau d'aujourd'hui. Nous rajoutons tous les risques, c'est des risques, ce n'est même pas des inquiétudes certaines, des problèmes certains, ce sont des risques. Ne rassemblez pas tous les risques et toutes les inquiétudes de demain pour les rajouter au fardeau d'aujourd'hui. Vous voyez ce que nous faisons? Lorsque nous sommes comme cela, nous rendons le fardeau d'aujourd'hui si pesant qu'il est insupportable, et c'est comme cela que le diable nous tente et nous détourne de nos devoirs présents. Vous comprenez? Il nous tente à être si anxieux vis-à-vis de l'avenir qu'il nous pousse vers l'assouvissement des plaisirs charnels, quels qu'ils soient. Vous comprenez cela? D'un extrême, il veut nous balancer vers l'autre. Et c'est pour cela, donc, que le Seigneur nous exhorte à ne pas rassembler tous les risques et toutes les inquiétudes de demain pour les rajouter au fardeau d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Un jour seulement nous appartient. Et pendant ce jour-là, nous devons vivre pour Dieu. Pour ce jour-là, nous devons remettre entre les mains de Christ, comme un acte de service solennel, tous nos desseins et nos projets. Nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Elle cite « Je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, verset 11. Et ensuite « C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. » Ésaïe chapitre 30 verset 15. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. Pas en vous inquiétant. En retournant à moi et en demeurant tranquille. C'est dans le repos et dans la confiance que sera votre force. En me reposant en Dieu et en me confiant en lui. Et c'est très intéressant ici parce que dans le passage d'avant, Jérémie 29, 11, il nous dit « je sais moi, les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensée de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Dieu ici nous dit, j'ai soin de votre avenir et je vous donnerai une espérance. Et les pensées qu'il forme pour nous sont des pensées de paix et non d'adversité. Et donc, frères et sœurs, ici, c'est un élément clé. Parce que lorsque j'exerce, je fais preuve de foi en la parole du Seigneur, et précisément en cette parole du Seigneur, lorsque j'exerce ma foi en cela, lorsque je me confie en lui, en ce qu'il dit la vérité, et qu'il est digne de ma confiance précisément dans cela, eh bien je m'attacherai non pas à mes pensées, de ce que je pense être la meilleure manière dont mes projets pourraient s'accomplir, mais au lieu de cela, je m'accrocherai aux pensées qu'il forme pour moi, qui sont non pas des pensées de mal, comme c'est écrit en anglais, mais qui sont des pensées de paix pour me donner un avenir et une espérance. C'est à cela qu'il faut que nous nous accrochions, frères et sœurs, pour pas que nous permettions à l'ennemi de détourner nos pensées vers des méditations, des contemplations de l'esprit qui ne porteront aucun fruit et qui nous saperons notre énergie et fragiliserons et briserons notre lien de communion avec le Seigneur. Je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel. Nos pensées, elles ne font rien du tout. Hein? Nos pensées, elles ne font rien. Mais Dieu, il forme des pensées. Il dit, et ça se produit. Ses pensées, elles sont utiles. Les nôtres, à moins qu'elles soient des pensées concentrées sur ses pensées, nos pensées, elles ne servent à rien. Nos soucis, notre imagination. Ça ne fait rien. Mais les pensées de Dieu, qui sont des pensées de paix et non d'adversité, elles visent à nous donner un avenir et une espérance. Elles visent à notre bien. Lorsque Dieu forme des pensées, nous pouvons nous accrocher à cela. Parce que lui, quand il a dit ce qu'il avait à l'esprit, c'est assez fait. Il a dit, il l'avait à l'esprit avant, ensuite il l'a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Hein? Je sais les pensées que je forme pour vous. Je poursuis. Ne nous tourmentons pas à propos des difficultés du lendemain. Portons avec courage et bonne humeur les fardeaux d'aujourd'hui. Nous devons avoir la foi et la confiance nécessaires pour aujourd'hui, mais il ne nous est pas demandé de vivre plus d'un jour à la fois. C'est le Seigneur qui parle ici, le témoignage de Jésus. Il ne nous est pas demandé de vivre plus d'un jour à la fois. Combien de choses, pour combien de fois avons-nous fait cela? D'essayer de vivre 2 jours à la fois, 3 jours à la fois, 10 jours à la fois, 1 an à la fois, 2 ans à la fois. Combien de fois, frères et sœurs, avons-nous fait cela? Le Seigneur nous appelle doucement et avec un grand amour à nous repentir de ces péchés-là, à nous repentir de ce train de vie-là, à nous repentir de ces habitudes mauvaises qui font mal au cœur de Dieu. Oui, nous devons avoir la foi et la confiance nécessaires pour aujourd'hui. Il nous la faut pour aujourd'hui. Nous avons besoin de cette foi et de cette confiance pour obtenir la victoire sur la tentation et sur nos obstacles et les difficultés qui se présentent à nous, mais il ne nous est pas demandé de vivre plus d'un jour à la fois. Dieu lui-même nous appelle à vivre au jour le jour. Pas plus d'un jour à la fois. Souvenez-vous de cela, frères et sœurs. Souvenons-nous de cela. Pas plus d'un jour à la fois. À chaque fois qu'une pensée se présente à vous qui requiert de vous une contemplation non nécessaire sur les choses de l'avenir, vous savez tout de suite parce que Dieu ne nous demande pas de vivre plus d'un jour à la fois. Un seul jour, il dit un seul jour, pourquoi tu penses à demain? Un seul jour, aujourd'hui, avec moi. Ce jour, avec Dieu. À chaque fois que vous pensez, par exemple, si demain, disons lundi, hein? Bon, si demain, je prends l'avion. Non, disons lundi, je suis le dimanche et je le fais lundi. On est le dimanche. Et lundi, je prends l'avion. Eh bien, je vais réfléchir à tout ce dont j'ai besoin. Je vais faire la liste dans ma tête. Mais ce n'est pas pour m'en inquiéter. Je suis juste en train de faire quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour le lendemain. C'est une préparation imminente. Ce n'est pas une inquiétude. Si ça se transforme en inquiétude sur des choses que je ne peux pas changer, alors là, je m'arrêterai. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? J'essaie de faire ici la distinction pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Si je pars en avion, je fais mes préparations, je vois ce dont j'aurai besoin, tac, 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 j'aurais préparé mon passeport bien avant. Hein? Vous voyez, là, j'aurais pu faire une préparation bien avant mais ce n'est pas en vue de m'inquiéter de cela. J'aurais préparé mon passeport, j'aurais préparé mon billet, j'aurais préparé ma valise quelques jours avant. Moi, généralement, je le fais très peu de temps avant. Tout, mais ce n'est pas des inquiétudes. Vous comprenez? Ce sont des préparations nécessaires. Mais si je suis en train de me demander, peut-être que dans l'avion il y aura cela, je n'y peux rien. Ou peut-être qu'il va y avoir un accident, qu'est-ce que je peux faire pour... Non, je n'y peux rien. Je le laisse. Seigneur, je t'expose ma demande. Fais que j'ai un libre passage, que le trajet d'avion se passe bien, tu places ta bénédiction. Je n'y peux rien d'autre. Vous comprenez? Je relis. Il ne nous est pas demandé de vivre plus d'un jour à la fois. Celui qui donne la force nécessaire pour aujourd'hui donnera aussi la force pour demain. Donc je ne devrais pas m'inquiéter de comment je vais pouvoir accomplir cette chose demain parce que je ne sens pas la force aujourd'hui. La force me sera donnée demain. Aujourd'hui, je n'ai que la force nécessaire pour aujourd'hui. C'est là que le Seigneur veut que nous comprenions intérieurement, profondément et que nous l'intégrions de manière quotidienne pour marcher ce jour avec, non pas mes propres pensées, avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, je marche ce jour-ci. Il donnera la force nécessaire pour demain. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'aurai pas la force pour demain. Demain, j'aurai la force pour demain. Aujourd'hui, je n'ai que la force dont j'ai besoin pour accomplir mes devoirs d'aujourd'hui. C'est ce dont nous avons vraiment besoin, de comprendre cela. Je poursuis. Notre Père Céleste, écoutez bien, nous allons conclure avec cela. Notre Père Céleste mesure chaque épreuve avant de permettre qu'elle n'atteigne le croyant. Il tient compte des circonstances et de la force de celui qui est appelé à être éprouvé par Dieu. Et il ne permet jamais que les tentations dépassent la capacité de résistance de chacun. Si l'âme est vaincue, si elle est subjuguée, il ne faut pas en accuser Dieu sous prétexte qu'il n'aurait pas donné la force spirituelle voulue. La responsabilité en incomberait à celui qui a été tenté, mais qui n'a pas été vigilant dans la prière, et qui ne s'est pas approprié par la foi les abondantes ressources que le Seigneur tenait en réserve pour lui. Ce passage ici, c'est en train de bien confirmer que Dieu ne manquera jamais de donner la force nécessaire pour le jour où nous avons besoin, où nous en avons besoin. Et que si nous sommes vaincus, que nous sommes subjugués, il ne faut pas que nous en accusions Dieu, mais il faut bien comprendre que la responsabilité nous en incombe à nous qui avons été tentés, mais qui n'avons pas étaient vigilants dans la prière et qui ne nous sommes pas appropriés par la foi les abondantes ressources que le Seigneur tenait en réserve pour nous en cette journée. Christ n'a jamais abandonné un croyant à l'heure du combat. Celui-ci, le croyant, doit se réclamer de la promesse divine et affronter l'ennemi au nom du Seigneur, et il ne connaîtra jamais la défaite. À plus forte raison s'il se concentre sur aujourd'hui sans essayer de pourvoir aux besoins du lendemain. Comme Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Le présent est suffisamment difficile pour que nous n'ayons pas besoin d'y ajouter des épreuves imaginaires d'un jour futur qui n'existe pas encore. Si nous nous réclamons de la promesse divine et que nous affrontons l'ennemi en ce jour au nom du Seigneur, eh bien nous ne connaîtrons jamais la défaite. Si nous nous réclamons de la promesse, que nous faisons preuve de cette foi et de cette confiance dont nous avons besoin chaque jour. Je poursuis le même livre à la page 487 et au paragraphe 3. Tous autant que nous sommes, nous aspirons tellement au bonheur. N'est-ce pas vrai? Nous aspirons au bonheur. Tous. Mais peu le trouvent, le bonheur, parce qu'ils ne le cherchent pas comme il convient. Ainsi, nous cherchons le bonheur par nos inquiétudes. Nous ne cherchons pas le bonheur comme il convient. Et donc, comment convient-il pour nous de chercher le bonheur afin de le trouver? Nous devons déployer tous nos efforts et mêler la foi à tous nos désirs. Alors, le bonheur vient presque sans être sollicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne me suis pas inquiété du lendemain. Je me suis concentré à vivre au jour le jour, dans le présent, avec le Seigneur. Je me suis concentré à cette marche avec Dieu, comme Enoch marchait avec Dieu. Et donc, quand le bonheur vient, sous quelque forme que ce soit, ou que ce soit simplement une réalisation personnelle de la richesse de cette relation que je peux avoir avec Jésus lorsque je fais taire toutes les autres voies, lorsque le bonheur vient, il vient presque sans être sollicité. Parce que je n'ai pas cherché le bonheur indépendamment de Dieu, mais j'ai cherché à plaire à Dieu. Et le bonheur est venu à moi presque de manière furtive. Vous comprenez? C'est cela que fait l'inquiétude. Nous cherchons à avoir quelque chose à l'extérieur de Dieu. Mais quand nous nous concentrons à faire la volonté de Dieu, de manière sans prendre en compte les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, eh bien, cela n'y manquera pas. Nous ferons l'expérience de cette paix qui surpasse toute intelligence, et nos cœurs et nos pensées seront gardés en Jésus-Christ. Comme il avait dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses qui sont bonnes, qui nous sont nécessaires selon la sagesse de Dieu et sa volonté, nous serons ajoutés. Elles viendront presque sans être sollicité, parce que nous ne les avons pas cherchés ardemment en nous détournant de nos responsabilités et de nos devoirs envers Dieu. Nous nous sommes concentrés sur notre responsabilité de servir le Seigneur, de travailler dans son œuvre, de nous efforcer de lui plaire et de lui obéir. Et alors, lorsque nous avons déployé tous nos efforts et que nous avons mêlé la foi à tous nos désirs, eh bien le bonheur viendra presque sans être sollicité, presque par surprise. Lorsque nous pouvons lorsque nous pouvons, malgré les circonstances adverses, nous reposer sur son amour et nous réfugier en lui, nous confiant pleinement en son amour, le sentiment de sa présence nous inspirera une joie profonde et sereine. Cette expérience-là nous permettra d'acquérir une foi qui nous met à même de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous tourmenter, mais de dépendre d'une puissance qui est infinie. Quelle est cette puissance? C'est Dieu. Dieu est cette puissance. Cette puissance infinie. Lorsque, quelles que soient les circonstances adverses, les anxiétés, les inquiétudes, les perspectives non prometteuses de notre avenir, lorsque dans ces circonstances-là, nous nous reposons sur son amour et nous venons nous réfugier à l'ombre de ses ailes, en faisant confiance en son amour, confiance à sa parole, en nous réclamant de sa promesse divine, quelles que soient nos émotions, nos angoisses, nos inquiétudes, alors, lorsque nous avons choisi, quoi qu'il en soit, de nous reposer sur son amour, nous avons cette promesse que le sentiment de sa présence nous inspirera une joie profonde et sereine. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette expérience-là nous permettra d'acquérir une foi. Tout cela, tout cet effort où nous mêlons la foi à tous nos désirs, que nous nous reposons en Dieu, cette expérience-là, elle nourrira, elle créera, elle grandira en nous une foi qui est telle que nous ne nous inquiéterons plus et que nous ne nous tourmenterons plus au sujet de l'avenir, mais que nous dépendrons de la puissance infinie qui est Dieu. Et j'aimerais conclure notre méditation par le psaume 37. Le psaume 37. Verset 5 à 9. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Il fera ressortir ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Réprime la colère et laisse l'emportement. Ne t'irrite point pour mal faire, car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont la terre. Versets 3 et 4. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite la terre et fais de la vérité ta pâture. Et prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Donc voilà, frères et sœurs. Nous devons lui remettre notre voix, lui remettre notre vie, nous confier en lui et s'attendre à ce que il agisse, à dépendre de ce que lui, il décide de faire et à être reconnaissant pour quelle que soit l'issue, pour quelle que soit sa décision. Et donc, c'est vraiment une vie d'abandon, de confiance et de foi à laquelle nous sommes ici appelés. De nous abandonner à Dieu, de nous confier en lui et de mettre notre foi en sa parole. Et si nous vivons cette vie, alors nous pourrons vivre au jour le jour, sans nous mettre en souci pour le lendemain, parce que nous lui remettrons continuellement le lendemain entre ses mains, comme un petit enfant se confie en son père qui a soin de lui. Voilà. Puisse le Seigneur bénir ses paroles en nos cœurs pour faire fructifier sa parole dans nos vies et concrétiser notre résolution, notre détermination de ne plus nous mettre en souci pour le lendemain, de ne plus nous inquiéter de rien, quel que soit le sujet intense de nos inquiétudes, mais de lui exposer nos demandes avec des prières et des supplications et avec actions de grâce, pour pouvoir vivre et pour être rempli de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ma prière. Amen.